Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et nous. Je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga. Pour moi, c'est une pratique qui infuse nos vies sur et en dehors du tapis. Alors tous les 15 jours, je reçois des profs de yoga passionnés pour explorer avec eux des thématiques en lien avec nos corps, notre santé ou notre quotidien. Le 21 décembre, on entrera officiellement dans l'hiver chez nous. Mais en réalité, ça fait déjà quelques semaines qu'on doit s'adapter au froid et aux journées de plus en plus courtes et qu'on peut ressentir fatigue ou petits et gros coups de blues liés à cette saison. Avec Stéphanie Billard, professeure de yoga intégral et yoga thérapeute, on va parler de l'énergie plus yin de l'hiver et de comment s'y adapter en douceur, mais aussi des pratiques de yoga plus yang pour se dynamiser ou se réchauffer. Bonne écoute! Bonjour Stéphanie, merci d'être avec moi pour ce premier épisode hivernal.
Bonjour Laura, ravie d'être là également.
Alors pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter et nous raconter un petit peu ton histoire à toi avec le yoga ?
Mon histoire avec le yoga, c'est une histoire, on va dire, déjà de quelques années. Et véritablement, c'est une passion que j'ai la chance d'exercer depuis maintenant plusieurs années. J'enseigne et je suis formatrice, aussi bien en yoga intégral qu'en yoga thérapie. Et je dois dire que c'est un grand bonheur pour moi parce que chaque jour, ça me permet, en transmettant, en enseignant, de pouvoir un peu plus continuer à chercher, à comprendre ce qui se passe dans notre organisme, dans nos énergies, dans cette interaction magnifique entre le corps, le cœur, les émotions et notre mental. Donc voilà, je suis très heureuse de pouvoir l'enseigner, le pratiquer.
Ouais, et comment tu l'as découvert ? Quand est-ce que tu as pratiqué pour la première fois ?
La toute première fois, ça remonte à un changement de vie où j'étais expatriée au Maroc, où j'ai pu rencontrer de merveilleux professeurs. Ça date à peu près de 15 ans, voilà. Donc, c'était une très belle période. Je faisais d'autres activités et petit à petit, le yoga a pris une grande ampleur dans ma vie et je suis devenue formatrice, enseignante depuis 10 ans à peu près.
Et qu'est-ce qui t'a poussée à te former à la yoga thérapie en particulier ?
Écoute, la yoga thérapie, c'est finalement tout est yoga thérapie quand on fait du yoga. C'est vrai que qu'est-ce que c'est que la yoga thérapie ? C'est un yoga qui est plus ciblé sur la prévention et la gestion des troubles, des divers troubles qu'on peut avoir en termes de santé. Mais quelque part, tous les yogas devraient être thérapeutiques. Hein. Donc oui, j'ai fait des formations particulières en yoga thérapie, en mantra thérapie, en spirothérapie, en sonothérapie. Mais quelque part, tout ce que l'on fait en yoga a pour but de maintenir un équilibre. Donc, c'est de la thérapie par principe, je dirais.
D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler de l'énergie et plus particulièrement en cette saison-là où chez nous, ça y est, en France, il commence à faire bien froid. Alors toi, comment est-ce que tu décrirais l'énergie de l'hiver ? Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce qui se passe dans nos corps, dans la nature et comment ça se ressent, notamment sur notre pratique ?
Oui, c'est vrai que... Alors, là, on va bientôt être en hiver, chez nous en tout cas. Voilà, le solstice d'hiver approche. Il faut dire que dans d'autres cultures, on est déjà en hiver. On est déjà, par exemple, en médecine chinoise, on est déjà en hiver. Et le pic de l'hiver, c'est le solstice aussi pour eux. On est dans une saison très yin, hein, je pense que tu ressens aussi. C'est une saison où c'est un changement en fait, de saison qui est hyper important à bien gérer. Et particulièrement, je dirais, en termes de prévention, en termes de rythme de vie aussi. Et de bien comprendre ce qui se passe aussi bien à l'intérieur de nous, dans nos organes, dans notre mode de fonctionnement et aussi au niveau des éléments à l'extérieur. Et c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup l'Ayurveda pour à la fois me soigner, prévenir les petits problèmes de saison. Et aussi, je me réfère aussi souvent à la médecine chinoise parce que ce sont les médecines les plus anciennes, multimillénaires et qui nous parlent vraiment de comment on peut construire une stratégie d'adaptation de notre organisme par rapport justement à ces variations saisonnières. Et je trouve ça très intéressant.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'on ne va pas se sentir de la même façon et avoir forcément les mêmes pratiques, les mêmes habitudes toute l'année, mais qui a besoin de s'adapter à ce qui se passe à l'extérieur, notamment par exemple en France, c'est vrai que les saisons sont très marquées, on a des changements de température, des changements qui sont très visibles dans la nature avec les plantes, les feuilles des arbres, etc. Est-ce que toi, personnellement, tu y es très sensible ? Par exemple, comment tu te sens en hiver par rapport au reste de l'année, aux autres saisons ?
Je pense que oui, j'y suis sensible et le corps s'adapte assez rapidement. C'est-à-dire qu'il y a des envies différentes, que ce soit au niveau des pratiques, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau des rituels. Moi, comme je pratique beaucoup l'Ayurveda, je suis très attachée aux rituels. Et tu sais, en Ayurveda, il y a à la fois les rituels de chaque jour, ce qu'on appelle les dinacharyas. Ça, c'est les rituels pour tous les jours de la vie. Et puis, il y a les rituels aussi qui sont liés à la saison. Chez eux, il y a six saisons, on va dire, en Ayurveda, et ils sont en fait dépendants de ces énergies qui augmentent, qui diminuent en fonction de la période. Et là, il faut savoir quand même qu'en période d'hiver, surtout au début de l'hiver, donc c'est-à-dire novembre jusqu'à janvier, on a cette montée de ce dosha qui s'appelle Vata. Donc du coup, Vata en Ayurveda, c'est vraiment tout ce qui est caractérisé par l'air, par les courants, par la mobilité, par le vent aussi, et le froid, justement, la sécheresse, et aussi c'est ce qu'on voit en ce moment, on a beaucoup encore de feuilles qui tombent, de vent et de sécheresse en fait, et aussi parfois même un manque d'enracinement qu'on peut ressentir. Donc du coup, en Ayurveda, on traite beaucoup cette dominante Vata qui est liée au début de l'hiver et au milieu de l'hiver, et on va essayer de se réchauffer, se réchauffer. Et moi personnellement, c'est ce que je fais énormément, c'est-à-dire que là, c'est un peu en mode cocooning, donc besoin de beaucoup de chaleur, de prendre des bains chauds, d'avoir véritablement une petite bouillotte dans le lit ou même parfois pour éviter des problèmes de dos dans la journée, et beaucoup de massages aussi à l'huile chaude. Ça fait un peu partie de mon rituel quotidien de toute l'année, le massage du matin, mais à l'huile chaude, c'est vraiment en cette saison. Donc, de pouvoir chauffer son huile le matin pour faire un automassage. Donc ça, c'est très, très bon. Moi, ça fait partie de mes pratiques. Et après, souvent, ce que je recommande, c'est vrai que c'est une période où il faut un petit peu rentrer en mode cocooning, quoi. Vraiment.
Oui,
il faut,
c'est ça, tu parlais tout à l'heure d'une énergie yin, donc ça c'est l'idée que c'est important de ralentir son rythme, d'avoir plus de moments de calme, de repli sur soi, d'explorer peut-être davantage la notion de pratyahara aussi, tout ça, ça va dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on entend par une énergie plus yin ?
Une énergie plus yin, c'est une énergie, comme tu dis, d'introspection, une énergie où on se recharge de l'intérieur. Et en fait, dans cette saison, tu vois, en médecine chinoise, on parle de l'énergie du rein. Je ne sais pas si ça te parle, mais vraiment, c'est vrai que c'est la période où le rein, en fait, mais dans le sens énergétique, est à sa plénitude. Et il est en train de se recharger. Et donc, pour se recharger, il faut vraiment nous-mêmes aussi se détendre. C'est-à-dire qu'il y a un appel en cette saison yin à se reposer, vraiment à prendre du temps, à dormir aussi un petit peu plus. Et évidemment que les journées longues sont propices à ça, de prendre des temps de lecture, de prendre du temps pour soi et de ralentir en fait. Et c'est vrai qu'on est dans un mode souvent toute l'année hyper stress, technostress. S'il y a une période où il faut vraiment accepter de ralentir et la saison nous y invite par une lumière plus réduite, c'est vraiment cette période-là. Donc c'est une période idéale pour la méditation, comme tu dis, pratyahara, qui est un moment pour rentrer à l'intérieur, des respirations, pour en parler. Et tu vois, prendre le temps que les reins, aussi bien en termes d'énergie que d'organes, puissent se régénérer. C'est hyper fondamental parce que c'est là, en fait, où on va en fait recharger pour l'année suivante, pour le printemps suivant. Si on ne le fait pas là, on risque d'être fortement en baisse d'énergie au printemps. Donc c'est le moment, surtout là, novembre, décembre, jusqu'à janvier, c'est le pic du yin. Donc décembre, c'est le pic du yin. Donc il faut y aller dans cette période où on se régénère et où on prend soin de soi.
D'accord, oui, on va effectivement revenir évidemment sur toute la... sur la façon dont ça va se traduire dans notre pratique de yoga, mais aussi peut-être que une des difficultés de cette saison, c'est aussi d'arriver à coller avec cette énergie plus yin de l'hiver, mais sans être non plus apathique, sans être dans l'hibernation, en gardant un minimum de vitalité. Comment ça se travaille, ça, pour trouver le bon équilibre, pour déjouer la fatigue, voire la petite déprime qui peut accompagner l'hiver?
Oui, clairement, il ne s'agit pas de forcer. Quand on dit le repos, c'est surtout de ralentir. C'est pas l'inactivité. Mmh. Ça peut être d'aller marcher en forêt, de faire de la cuisine, de lire. C'est aussi, pour moi, je pense, au niveau des pratiques. Moi, j'aime bien les pratiques yin-yang. Et c'est vraiment la bonne saison pour faire des pratiques yin-yang parce que, évidemment, qu'en hiver, il faut aussi éliminer les toxines. C'est hyper important. Donc, de pouvoir bouger son corps, réchauffer son corps par des pratiques pratiques à la fois de respiration réchauffante, de kriya, et puis d'un yoga un peu plus tonique, surtout le matin. Et puis, des moments beaucoup plus doux, de yin, d'étirements doux, de massage avec les postures ou même des automassages. Donc, de pouvoir effectivement équilibrer ça. Et évidemment, le souffle, c'est vraiment vital, particulièrement de travailler ses respirations à cette période.
Oui, donc en fait, effectivement, cet équilibre, il va passer par différents types de pratiques. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de pratiques yin, plutôt à tendance yin, qui sont bien adaptées pour l'hiver, et puis nous dire, bah, du coup, à quel moment, dans quelles circonstances, ça va être le plus intéressant de les faire?
Alors, disons que moi, ce que j'aime bien en pratique assez yin, c'est pour moi, c'est des pratiques proches de la terre. Donc, effectivement, c'est très conseillé d'aller vers la terre, surtout en période vata, puisque le vata, pour bien comprendre, c'est cette terre et ce qu'on appelle l'éther. Donc, c'est quelque chose qui est très mouvant. Et si on veut se poser, ben, y a rien de mieux que le retour à la terre, à la terre-mère. Et dans nos postures de yin, souvent d'ailleurs, on est toujours très proche de la terre. Donc des postures assises, des postures allongées, des postures qui vont nous reconnecter à cet élément. Et donc ça, c'est des postures qui en plus ont l'avantage, je pense à toutes les postures assises, hein, notamment une des plus belles, comme Paschimottanasana, la posture assise en pince. Bah, c'est vraiment une posture où on se régénère à la terre, et en plus elle a l'avantage d'étirer doucement tout l'arrière du corps, ce qui est aussi justement l'occasion d'étirer, hein, sur la ligne de certains méridiens, et notamment le méridien vessie qui est associé au méridien rein. Donc moi j'aime beaucoup cette posture, et toutes les postures ensuite aussi qui vont dans ce sens, avec ouverture des jambes, les postures de papillon, les postures de grand angle qui font énormément de bien. Et si on veut aussi raisonner par rapport au fait que pendant la période vata, c'est-à-dire là, en ce moment, notre mental, notre système nerveux peut aussi être un peu épuisé, puisque c'est le propre des gens qui sont vata, mais aussi de cette énergie vata, souvent d'avoir un système nerveux un petit peu trop galopant et trop puissant parfois. C'est justement de pouvoir poser. Moi, j'aime beaucoup pratiquer avec des choses qui servent de support au niveau du front, notamment. Donc, toutes les postures où on va adopter des petits supports, où on posera véritablement le système nerveux, le mental, le cerveau.
Oui, donc, quand tu dis support, ça veut dire qu'on va poser le front sur une brique, sur un coussin, sur un bolster?
Exactement, ouais, exactement. En fonction avec la hauteur qui nous convient. Et ça, ces pratiques-là, c'est ce qu'on peut appeler des pratiques de décharge à la fois, mais aussi des pratiques de recharge énergétique. Tu vois, là, je sors d'une formation justement sur le stress, où c'est une des choses qui fait le plus de bien. Les gens expriment à quel point le fait de pouvoir déposer, c'est comme si on remettait à la terre des choses lourdes, des choses qui toute l'année, on a dû vraiment engager beaucoup d'énergie, et là, en fin d'année, c'est le moment de déposer, de ralentir, et la symbolique de ces postures, c'est vraiment ça. Et c'est assez magique. L'effet est assez incroyable. Les gens sont épuisés, et dès qu'ils commencent à aller vers ce genre de posture qu'il faut maintenir au moins 3 minutes, tu vois, on ressort régénéré, nourri, rechargé.
Et pour toi, c'est des postures qu'on peut prendre à n'importe quel moment de la journée, ou qui sont plutôt le plus adaptées pour la fin de journée, le soir avant de dormir?
Je dirais que c'est bien le soir, évidemment. Ça peut se faire en combiné, en fin de pratique le matin. Il n'y a pas de règle absolue par rapport au timing de la journée. Moi, j'aime bien le matin aller vers des postures qui réveillent l'énergie. Donc oui, un peu plus yang, mais un yang surtout réchauffant, en fait, des postures qui activent à la fois nos bras, notre plexus solaire. Ça, c'est assez logique. Et puis le soir, c'est vrai d'aller vers ces postures-là, de préférence le soir, mais il n'y a pas de problème à en faire quelques-unes le matin en fin de pratique également, si on se sent justement agité en fonction de son état, clairement.
Oui. Alors justement, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ces pratiques yang, réchauffantes, dynamisantes de l'hiver? Donc j'imagine que par exemple, si c'est un vinyasa, des salutations, ça va être quelque chose quand même d'assez doux, d'assez lent peut-être par rapport au reste de l'année?
Ah oui, en fait, on peut faire ce qu'on appelle un slow flow, très à l'écoute de son souffle, et aller vraiment chercher l'ouverture, en fait, l'ouverture du cœur à travers les étirements de bras, donc toutes les postures de guerrier où les bras s'étirent. Tout ça, ça réchauffe énormément. Donc, dès que les bras sont en l'air, dès que les bras s'activent, de katasana, des postures de
la chaise,
voilà, toutes ces postures-là vont énormément réchauffer, auxquelles on peut, pourquoi pas, ajouter un travail respiratoire comme Kapalabhati. Hein, on peut très bien, donc, dans certaines postures, moi j'aime bien mixer le Kapalabhati avec des postures justement qui activent le plexus solaire, qui sont déjà dans cette énergie un petit peu de feu, même dans des bateaux, des navasanes et des utkatasanes. Ça, c'est toujours intéressant à intégrer, mais sans effectivement aller forcément dans la vitesse. On peut très bien être dans l'intensité sans être dans l'agressivité, au contraire. Donc ça, évidemment, ça va être très bénéfique le matin. Donc les respirations peuvent être combinées. Tu sais, dans le yoga intégral, on fait vraiment respiration, posture ensemble, en fait.
D'accord, oui. C'est-à-dire que, par exemple, tu parlais de Kapalabhati. C'est vrai que moi, je sais que j'ai l'habitude de le pratiquer en posture assise, mais donc toi, tu l'intègres dans les postures. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est cette respiration Kapalabhati pour celles et ceux qui ne connaissent pas peut-être?
La Kapalabhati, c'est une des pratiques qu'on peut faire toute l'année véritablement, qui a un effet détox et un effet, je dirais, apaisant du mental. Donc, à part quand on est vraiment dans son cycle ou quand on a des douleurs, on le fait à jeun aussi. Donc, il faut le faire après ou longtemps après les repas et idéalement dans les premières heures du matin, avant le petit déjeuner. C'est une pratique où on va favoriser les expirations avec vraiment que des expires, en expulsant l'air véritablement et en massant le ventre avec des petits coups secs du ventre vers l'intérieur. Et du coup, quand on fait Kapalabhati, c'est vraiment une respiration qui est aussi, on appelle ça un kriya, donc une purification complète, un pranayama et un kriya, qui va avoir un effet réchauffant, qui va avoir un effet détoxifiant puisqu'on masse le ventre, qui va avoir un effet hyper purifiant pour les poumons, donc, qui sont un émonctoire majeur. Et c'est très intéressant parce qu'on dit beaucoup, en médecine chinoise, que l'énergie du poumon soutient et nourrit l'énergie des reins. Donc là, ça va encore favoriser la recharge de la batterie des reins dont on parlait tout à l'heure. Et puis, Kapalabhati, ça veut quand même dire l'illumination du crâne. Donc véritablement, si on pratique régulièrement, bah, on a aussi des effets incroyables sur le mental et sur l'apaisement du système nerveux.
Oui. Et alors, très concrètement, sur le moment, ça fait monter aussi la chaleur, l'énergie, c'est ça? Souvent, chaleur et énergie, c'est un peu synonyme dans ces pratiques-là.
Oui. Ouais. Véritablement, on sent cette chaleur monter. Après, on peut doser, bien évidemment. Hein. Donc, ça active le métabolisme, en fait. Ça active ce qu'on appelle l'agni, le feu digestif. Et donc, du coup, bah, ça nous permet de mieux transformer. On est vraiment dans cette énergie de pitta quand on est aussi dans Kapalabhati et qu'on le fait assez longtemps, assez rapidement, chacun pouvant doser. Mais véritablement, c'est vrai que moi, j'aime bien l'ajouter. J'aime bien le pratiquer en assise. Et j'aime bien aussi, de temps en temps, l'ajouter dans certaines postures, dans les torsions, par exemple. Les torsions aussi à cette période, c'est vraiment magnifique parce que de toute façon, les torsions, elles devraient faire partie de toutes les pratiques, aussi bien pour la colonne vertébrale que justement pour le massage des viscères. Et quand on y ajoute quelques Kapalabhati, on a un effet détox encore plus important.
Voilà. Est-ce que les inversions aussi peuvent être intéressantes en cette période? Je me dis peut-être pour réchauffer les extrémités, les mains, les pieds, quand on a tendance à avoir les mains et les pieds gelés parce qu'on n'a pas une très bonne circulation sanguine. Est-ce que là, les inversions vont avoir leur rôle à jouer aussi?
Oui, bien sûr. Oui. Les inversions, elles aussi, elles font partie des pratiques qui sont à intégrer à chaque fois qu'on est dans une pratique globale. Il y a des inversions, que ce soit des inversions actives ou passives, c'est-à-dire actives qui engagent la force comme une posture sur les mains, sur la tête, sur les épaules, ou passives avec support, comme des arcs soutenus ou des ponts soutenus. Mais oui, moi, je trouve que c'est surtout parce qu'elles font, en fait, en hiver, on a tendance à accumuler les toxines. Peut-être qu'on bouge moins, on court moins, et d'ailleurs, c'est normal. Donc, du coup, c'est hyper important de favoriser, en fait, cette circulation sanguine, comme tu dis, jusqu'aux extrémités du corps, déjà, d'aider le cœur à mieux faire son travail, et également de booster la circulation lymphatique. Et c'est vraiment ça, l'intérêt, je trouve, des inversions, c'est qu'en restant plusieurs minutes dans une posture donc, où la tête est plus basse que le cœur, on va vraiment favoriser l'évacuation des toxines, des déchets, de tous les résidus. Et on le sait aussi, puisque les postures, elles agissent aussi bien sur notre physiologie, sur le système sanguin, mais elles agissent aussi beaucoup sur le mental. Le fait d'être aussi dans cette position, ça calme énormément le système nerveux. Donc, ça, à nouveau, on a des effets multiples hyper intéressants en cette période.
Et tu parlais aussi à un moment donné de plexus solaire, des salutations au soleil. Est-ce qu'il y a le travail sur certains chakras qui est intéressant aussi pour la circulation de l'énergie en hiver? Sur quel chakra est-ce qu'on va essayer de travailler davantage?
Là, honnêtement, le travail sur les chakras, il est complet. Je dirais qu'il faut à la fois le chakra racine, parce qu'en période Vata, on manque d'enracinement, et donc du coup, bah, travailler des postures de guerrier, des postures où on est proche de la terre, comme on disait tout à l'heure, ouais. Ça c'est hyper important, le chakra base. Travailler le plexus solaire, évidemment. Donc ça, c'est tout ce qu'on a vu avec les Kapalabhati, avec les torsions, avec certains barattages du ventre aussi qu'on fait, les kriyas, où on va vraiment aller chercher dans cette idée de réchauffer. Donc oui, le côté solaire est intéressant. Et puis, sans oublier la respiration. Donc on est dans le chakra 4, dans le cœur, qui soutient l'énergie des reins. Et il faut aussi... toujours calmer le système nerveux en travaillant les zones hautes, donc les chakras supérieurs qui sont souvent bien stimulés et en tout cas activés dans le cadre des inversions. Donc tu vois, finalement, tous les chakras vont quand même participer à cette période avec une priorité au chakra base, au ventre et cœur et tête, je dirais.
D'accord. Est-ce que tu as d'autres conseils plutôt côté alimentation pour soutenir cette énergie-là hivernale?
Oui, le café, bon, moi je le remplace par de la chicorée. J'adore la chicorée additionnée de maca. Peut-être que certains connaissent, c'est un super aliment qui nous vient d'Amérique du Sud. Ça donne un peu un maca chicorée. Et c'est vrai que c'est extrêmement nourrissant, la chicorée en poudre qui remplace donc super bien le café. Ça a un côté très réconfortant, particulièrement en hiver. Dans tout ce qui va être un petit peu liquide, ensuite, il y a tous les laits chauds, tu vois, des laits d'amande, des laits de coco, enfin surtout amande, je dirais, parce que le coco, c'est un petit côté des fois rafraîchissant. Moi, j'aime beaucoup le lait d'amande en hiver, mais additionné de certaines épices. Donc, tu as les épices réchauffantes, on parle des épices qui ont une nature réchauffante, leur qualité est réchauffante, et là, on ira vers des épices comme la cannelle, la cardamome, le curcuma, bien sûr, et le gingembre aussi. Et là, tu peux te faire le fameux lait d'or. Moi, j'aime beaucoup faire du lait d'or en période hivernale.
Alors, qu'est-ce que c'est le lait d'or? C'est comme le chai latte ou c'est encore autre chose?
C'est différent. Il y aura des épices qu'on va retrouver dans le chai latte. Il n'y a pas de thé dans le lait d'or. En fait, ça se prépare souvent en deux temps. Tu fais une sorte de pâte de curcuma. Cette petite pâte, c'est du curcuma avec un tout petit peu de poivre qui permet d'activer la curcumine et les effets bénéfiques du curcuma anti-inflammatoire, antioxydant. Et cette petite pâte de l'eau avec du curcuma et un petit peu de poivre, en fait, il suffit de la mettre dans une casserole et le curcuma va absorber l'eau et ça devient une petite pâte. Ça, on peut s'en faire une quantité, le garder au frigo. Et dès qu'on veut se faire son lait d'or, on prend donc un lait végétal assez gras, comme l'amande. On rajoute une cuillère à café, par exemple, de cette pâte de curcuma, un petit peu d'huile de coco, et puis d'autres épices. Moi, j'aime beaucoup, comme je disais, la cannelle, le cardamome. Et du coup, ça se marie, on fait réchauffer, et ça donne le lait d'or. Magnifique, jaune, extrêmement nourrissant. Extrêmement nourrissant.
D'accord, bah écoute, j'ai jamais goûté ça.
C'est vrai. Vraiment, c'est facile et c'est délicieux. Après, on peut rajouter un petit peu de miel si on veut. Il faut savoir juste que le miel, on évite de le mettre de le faire chauffer et de le mettre dans quelque chose de très chaud, parce qu'en Ayurveda, on dit que le miel chaud, c'est un poison. Donc, tu l'ajoutes vraiment après, quand le lait est tiède. Sinon, il y a d'autres sucres qui supportent plus la chaleur, le sucre de coco, les sucres naturels qui sont OK. Hein. Et après, il y a d'autres choses aussi en hiver. Hein. Donc après, si on parle plutôt de la table en tant que telle, ça va être bien sûr des aliments un petit peu différents. On ne va pas manger de la même chose en été et en hiver. Et en fonction des saisons, il y a des choses qu'on va privilégier.
D'accord. Oui, bon, ça, j'imagine qu'après, il faudrait rentrer dans pas mal de détails. Mais voilà, si on se tourne vers des livres autour de l'Ayurveda, il y aura beaucoup de conseils sur l'alimentation selon les saisons.
Oui, en fait, le grand principe, c'est toujours, en fait, c'est simple à l'Ayurveda, c'est que quand on est dans une énergie dominante, vata, qui est froide et sec, on va aller vers des choses qui compensent ceci, donc on va évidemment manger beaucoup plus chaud, c'est vraiment la période des bouillons, des légumes, et des légumes racines, parce que c'est la période idéale pour aller vers les légumes racines, et justement pour favoriser l'enracinement. Tu vois, tout est logique, en fait, donc plus de carottes, plus de patates douces, de navets, des oignons, et puis moi, j'aime beaucoup aussi les courges, hein. C'est une superbe saison pour ça. Associé un petit peu plus aussi de légumineuses, de lentilles corail, c'est vraiment excellent à cette période. Donc, un peu plus cuit, hein. Et un peu moins de cru, parce que le cru, c'est pas très bon pour l'élément, en tout cas pour ce dosha vata, dont la maison mère est le côlon. Donc, quand on mange trop cru en hiver, on peut se sentir un peu ballonné, encore plus que si c'était une autre saison. Et il faut aussi beaucoup de bons gras. Je crois qu'on ne le dira jamais assez, mais il faut beaucoup, beaucoup de bons gras pour le système nerveux, que ce soit à travers les avocats, les œufs, mais la partie jaune 2, en fait, c'est là où il y a le bon gras, les oméga 3, et des oléagineux. Donc, beaucoup d'oléagineux, d'huile végétale de bonne qualité. Ça, c'est vraiment essentiel. Et ce n'est pas ça qui va nous faire stocker, pour ceux qui font attention à leur poids. Au contraire, le bon gras ne fera jamais grossir. Et là, c'est une très belle saison pour renforcer un petit peu son apport en gras.
Et en ce qui concerne les automassages, toi, tu nous disais que tu te massais tous les jours. Est-ce que l'idéal, c'est de masser tout le corps, ou est-ce que si on n'a pas le temps, voilà, on veut se faire un petit automassage assez rapide, est-ce qu'il y a certains points de digitopression qu'on peut stimuler en particulier pendant cette période pour relancer un petit peu l'énergie?
Ouais. Alors là, on va dire, on peut parler au moins déjà du point, le premier point rein. Celui-là, il est top. Donc, il est facile. C'est au niveau de la plante des pieds. Si tu descends un petit peu le long du deuxième orteil, il y a une partie, on va dire, qu'il y a la boule des orteils, et puis ensuite, il y a la partie plus blanche de la voûte plantaire. Donc, cette partie un peu la charnière entre le rose et le blanc. Donc, ça reste le premier tiers du pied. C'est le point, on peut regarder sur après, le point qu'on appelle un rein. Donc ce point-là, on peut le masser, et on le masse souvent aussi quand on fait du yoga en venant sur la boule des orteils. Ça, c'est naturellement, on le masse, on peut le masser avec notre pouce ou avec une petite percussion aussi de notre poing sur cette zone-là. Donc ça, ça va stimuler les reins. Et moi, j'adore aussi stimuler les reins et la zone des surrénales, là, plutôt les glandes surrénales qui vont nous rebooster aussi, hein. Le but des surrénales, elles produisent des hormones comme l'adrénaline et le cortisol qui souvent sont associés au stress, mais il en faut. Il faut aussi un peu de cortisol, bien sûr, et l'activation de notre énergie par l'adrénaline. Et là, c'est vraiment des petites percussions, pareil, au niveau du milieu du dos, là où il y a les reins. Et ça, moi, je le fais systématiquement, tu vois, en hiver, même, je dirais, tout le temps, mais particulièrement en ce moment, pour stimuler les organes, effectivement. Donc ça, c'est super agréable. Mais les automassages, on peut, si tu veux, après le... Faire un automassage à l'huile, c'est vraiment un cadeau qu'on peut se faire. Vraiment, vraiment. Et on peut déjà faire le visage. Mais après, c'est un rituel de vie, un quotidien. C'est un temps justement avec soi, de quelques minutes le matin où on s'enduit d'huile. Alors plutôt des huiles chaudes pour cette saison, l'huile de sésame, l'huile d'amande, l'huile d'argan. Et ça, c'est vraiment des huiles magnifiques. Et après, on prend sa douche idéalement. On fait, en Ayurveda, on fait l'inverse de ce qu'on aurait plutôt tendance à faire dans notre culture. C'est-à-dire, on prend d'abord notre massage à l'huile et ensuite la douche en deuxième temps. Parce que l'huile a un effet détox. Elle est à la fois nourrissante, elle nourrit vraiment, elle rééquilibre le dosha vata. Et en même temps, elle a un effet détox. Quand on s'enduit d'huile et qu'ensuite on prend une douche, les résidus vont partir et on se sent véritablement propre.
Super. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces chouettes conseils qu'on va essayer d'appliquer pour passer l'hiver à peu près en forme. Est-ce que tu peux nous dire, avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver, Stéphanie, si on a envie de pratiquer avec toi?
Alors, je pense que le plus simple, c'est d'aller sur le site qui regroupe pas mal d'informations, quasiment toutes les informations. Le site, c'est yoga-line.fr, et sur ce site, en fait, on retrouve les ateliers, les cours en ligne, les formations de yoga thérapie, et aussi j'aime beaucoup animer des stages yoga et détox et nutrition, parce que c'est aussi un de mes dadas, et là aussi on va retrouver ça.
D'accord. Donc pour la pratique au quotidien, tu es dans quelle région?
Au quotidien, je suis entre Orléans et Paris. Après, je bouge en stage. J'aime bien retourner dans les pays que j'ai fréquentés, comme le Maroc, sinon d'autres régions de France aussi, le Sud.
Eh ben, merci beaucoup, Stéphanie. Et puis, je te souhaite une très belle fin d'année, un très bel hiver en pleine forme.
Très belle fête, Laura. Très belle fête à tous. Merci pour ce beau moment.
Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas évidemment à le partager autour de vous et aussi à vous abonner à mon compte Instagram @yogaetnouspodcast. À très vite pour un nouvel épisode.